France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi à 14h. En cette rentrée 2025, j'ai choisi un roman pour cette émission importante, un roman que j'ai beaucoup aimé, Jouer le jeu de Fatima Das, et un essai, Le mythe du prof et héros de Jérémy Fontagneux, pour interroger les places et les rôles à l'école. Et nous allons commencer avec ce roman, Jouer le jeu, qui nous fait entrer dans la tête d'une lycéenne, Kaiden, et vivre une grande expérience. La préparation et le passage du concours pour Sciences Po en éducation prioritaire, soutenu par une professeure de lettres, Madame Fontaine. On y reviendra à cette figure de professeur. C'est aussi Jouer le jeu, un beau texte sur l'adolescence. La puissance du roman permet de nous projeter. Kaiden, c'est moi. C'est vous. Et à hauteur d'ado, Jouer le jeu aborde des sujets chers à être et savoir en les faisant résonner du côté de l'intime. Donc non comme un essai sociologique ou historique. Et c'est intéressant justement parce qu'on ne raisonne pas comme un raisonnement RAI. Il est donc question d'école, mais pas seulement dans ce texte traversé par l'éveil des sentiments, la force des liens amicaux et familiaux, la place que l'époque nous laisse ou celle qu'on pourrait envisager de conquérir. Et bien sûr, les questionnements propres à l'adolescence et peut-être qui nous travaillent toute la vie. Enfin, je vais dire un truc pas très, très confraternel. Essayez de ne pas lire les critiques ou lisez-les plus tard si vous souhaitez lire ce livre, parce que il faut se laisser porter par ce récit, cette intrigue, celle de jouer le jeu, une histoire qui commence eh bien, un jour de rentrée scolaire.
La seconde 6 suit Madame Garance Fontaine. Elle ne dit pas bonjour. Elle fait un signe de la main pour dire « C'est par là qu'on va pour rejoindre la salle. » Elle marche rapidement. Il faut suivre son rythme pour ne pas la perdre de vue. Aucun élève ne connaît encore les couloirs du lycée par cœur. Kaiden et ses amis, Nelly et Jenna, avancent machinalement. Elle n'est pas du genre à blaguer, la prof. Elle dit le strict minimum. On peut s'installer par affinité, mais si elle estime que ça ne fonctionne pas, il y aura un plan de classe définitif jusqu'à la fin de l'année. 5 minutes après la deuxième sonnerie, ce n'est même pas la peine de venir frapper à la porte. Si on loupe une leçon, on se débrouille pour la rattraper et être à jour au prochain cours. Ça veut dire que si elle a donné des exercices, il ne faut pas revenir les mains vides. Si les devoirs maison ne sont pas rendus à la date fixée, c'est moins 1 le premier jour de retard, moins 2 si c'est 2 jours, et ainsi de suite. Pas la peine de croire qu'elle est absente quand il y a grève. Elle ne fait pas grève.
Alors, c'est pas seulement l'introduction d'un roman, c'est presque celle d'une année scolaire. On y est, hein. On est dans la classe, avec les profs, on s'y voit, assise derrière une table, à commencer à peut-être craindre une professeure, mais aussi être enthousiasmée. Fatima Das, bonjour.
Bonjour.
En tout cas, c'est très remarquablement restitué. Vous êtes l'auteur, faut-il le rappeler, du très remarqué La Petite Dernière, publié en 2020, dont l'adaptation, par Afsia Herzi sera au cinéma en octobre, le 22 octobre, je crois, et Jouer le jeu est publié aux éditions de l'Olivier, il faut le dire, le préciser. Cette histoire prend place à l'école, mais pas seulement. Mais est-ce que l'école... C'est un espace, mais aussi un temps, un moment romanesque.
Oui, tout à fait. Pour moi, ça a été vraiment un matériau hyper important. D'entrée de jeu, j'ai créé le personnage en fait de Kaiden, donc une adolescente, et sa bande d'amis, Jenna, Nelly, Samy, et en voulant parler en fait de l'adolescence, tout de suite en fait, je me suis dit, j'ai envie de parler de l'école. Parce que les adolescents passent énormément de temps à l'école et j'avais envie de raconter ce qui se passe à l'école, mais ce qui se passe aussi à la maison.
À l'école, à la maison, dans les endroits où on va déjeuner, parce que c'est important aussi ces moments avec... vraiment, on y est, hein, avec les amis. Cet entourage, il est plus que là pour apporter un peu d'épaisseur au récit. En fait, il construit le personnage. Les copines, c'est très important, ce qui va leur arriver aux copains aussi, construit l'histoire et la fait avancer. Il y a une mère, il y a une sœur, beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. C'est le décor de votre adolescence, de l'adolescence telle que vous l'imaginez aujourd'hui, de ce, comme vous la voyez, Fatima Das.
C'est à la fois des souvenirs, je suis allée piocher dans des souvenirs d'enfance et de sensations. Alors oui, moi j'ai grandi dans une famille où, voilà, avec trois grandes sœurs, une mère. Donc évidemment, évidemment c'est quelque chose qui m'a influencée. Mais c'est aussi, j'avais vraiment envie de... J'ai beaucoup aimé créer ces personnages-là, je les ai beaucoup aimés. J'ai ressenti beaucoup d'amour pour ces adolescents. Et j'avais envie de montrer ce que ça fait que l'amitié dans leur vie. Qu'est-ce que ça fait que d'avoir une bande d'amis avec qui on peut se charrier, mais aussi avec qui on peut avancer. Et c'est le cas notamment de Kaiden, qui est un personnage très taiseux, qui observe beaucoup, qui ne dit pas vraiment ce qu'elle pense, même à ses amis, et qui va trouver refuge dans l'écriture pour pouvoir poser des mots sur ce qu'elle ressent. Mais à l'intérieur de cette bande d'amis, il y a aussi Gina. Et Gina, c'est le personnage de l'adolescente qui est plus lucide, j'ai envie de dire, et qui a plus d'outils politiques pour comprendre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe pour elle, mais ce qui se passe aussi pour cette bande d'amis, notamment Kaiden, qui est élue par Madame Fontaine.
Qui est élue pour réussir, pour en tout cas passer ce concours qui exige une préparation. Jérémy Fontagneux, vous pouvez peut-être... Alors, c'est pas du tout le sujet de votre livre, et on va en parler, de votre livre, mais je crois que dans votre lycée, là où vous enseignez, on prépare aussi ce concours d'entrée à Sciences Po, dans les EP. C'est quelque chose qui a changé aussi beaucoup les lycées qui participent, parce que pour certains élèves, ce sont des cours en plus, la possibilité de s'investir davantage dans leur scolarité, ou encore autre chose, dites-nous.
Oui, tout à fait. En fait, au début des années 2000... Sciences Po constatait qu'en tant que grande école, il y avait une forte reproduction sociale chez les élèves. Et donc, du coup, Richard Descoings, à l'époque, avait ouvert ce concours alternatif qui était réservé aux élèves de quartier populaire. Et il se trouve que l'un des collègues de SES, Fabrice Morel...
Alors, SES, c'est sciences économiques et sociales.
Oui, pardon.
Au lycée, une discipline du lycée. Non, je le dis si certains l'ignorent.
Il avait représenté la voix du lycée de la Croix Drancy où j'enseigne. Et du coup, le lycée a été l'un des premiers, il y a une vingtaine d'années, du coup. Et du coup, l'atelier Sciences Po, chaque année, regroupe des élèves qui... de façon volontaire, comme c'est bien expliqué dans le roman, se sentent à la fois d'essayer de passer ce concours qui est très difficile, puisque l'entrée à Sciences Po Paris, y compris via les conventions d'études prioritaires, est très difficile d'accès. On le voit un petit peu dans la description de ce qu'il attend, sans spoiler le livre. Et dans le même temps, il y a une ouverture culturelle, il y a des intervenants extérieurs, il y a plusieurs sorties, et ça a un impact important... sur l'établissement, ça fait partie des nombreux clubs qui existent, des nombreux ateliers que beaucoup de professeurs font en plus de leur temps de travail devant les élèves. Et ça contribue à l'ouverture culturelle de l'établissement des élèves.
Oui, parmi les bilans qui ont été faits, il y a relatifs à l'ouverture sociale de Sciences Po. Là, on n'est pas vraiment au niveau de ce qui était attendu. Pour les lycées, c'est plus positif. J'indique que notre collègue Margot Léridon va sortir un livre justement sur Sciences Po et le bilan de cette ouverture sociale. Ce sera... le 15 octobre, je crois, et peut-être qu'on en reparlera dans l'émission. En tout cas, pour revenir à ce personnage de Kaiden, qui n'était pas une très bonne élève au collège, mais va s'engager dans un parcours de réussite scolaire. C'est un nouveau jeu qu'elle joue. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de votre livre, Fatima Das.
Aïcha réplique qu'elle voit bien que c'est une addiction. Qu'il n'y a rien qui l'arrête, même quand elle se brûle le front ou le doigt, et là, il va la mettre en retard dès le début de l'année. Shadi la regarde, perplexe. C'est qui, il ? Aïcha reprend en boucle. Le lisseur, au lieu de se concentrer sur l'école, ses cheveux, tout abîmés, c'est moche. Un jour, elle va tous les brûler. Quand vous aurez des enfants, vous comprendrez. Shadi explose de rire. T'es vraiment drama, un truc de ouf. Arrête les feuilletons algériens, tu deviens une caricature. Kaiden sort de la salle de bain, enfile son sac à dos Puma, l'air pressé. Combien de temps va-t-elle tenir en seconde générale ? Elle se moque d'arriver en retard. Elle fait ça pour sa mère, pour lui signifier. T'inquiète, on est dans le même camp, je ne veux surtout pas arriver en retard, j'ai conscience de la chance que j'ai d'aller à l'école, d'avoir accès à l'éducation, au savoir. En vérité, Kaiden fait semblant.
Il est extrêmement profond ce passage, Fatima Haddas. Alors on parlait évidemment du lisseur de cheveux, et c'est vrai qu'on on triche parfois avec ses cheveux. Beaucoup de gens qui ont les cheveux bouclés le font, pas vous, pas moi non plus. Mais transformer sa chevelure, c'est peut-être jouer un certain jeu. Et la réussite scolaire, plus sérieusement, s'en serait un pour vous. C'est un jeu auquel on accepte de se conformer, alors que finalement, on fait pas vraiment partie de ceux qui connaissent les règles, de ceux qui peuvent gagner.
Je pense que dans jouer le jeu, pour moi, il y a plusieurs éléments. Qui joue le jeu ? Est-ce que c'est Kaiden qui joue le jeu de la réussite ? Est-ce que c'est l'enseignante qui joue le jeu de
la bonne prof qui
la bonne prof qui va sauver, aider. Qui va aider, qui va civiliser, ou est-ce que c'est est-ce que c'est Kaiden qui tout d'un coup rêve de réussite? Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est comme vous l'avez rappelé, Kaiden, c'est quelqu'un qui en a un peu rien à foutre en fait de l'école, qui voit pas trop le sens, qui va à reculons. Et qui a une mère, l'extrait que vous avez cité, pour moi c'est très ironique. Enfin, Kaiden imagine que sa mère pense ça. On ne sait jamais très bien en fait ce que la mère pense. Enfin, on le sait un petit peu dans un passage où justement il y a cette confrontation avec Garance Fontaine où Aïcha dit mais moi j'ai seulement envie que mes filles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Et je pense qu'on revient à la question de la volonté dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que Kaiden a vraiment envie de faire Sciences Po ? Est-ce que Kaiden sait ce que c'est que cette école ? Non, puisqu'elle va faire des recherches. Donc on a, pour moi, c'est vraiment la question de, on pousse qui vers cette école-là ? Pourquoi Kaiden est choisi pour aller dans cette école ? Pourquoi cette enseignante la pousse à intégrer cette école ? Est-ce que c'est parce qu'elle a senti que c'était son désir ? Ou est-ce que c'est le désir de l'enseignante ? Et comment on peut, entre guillemets, aller jusqu'à toucher ce qu'il y a de plus intime chez une adolescente, à savoir l'idée de l'amour, et comment on utilise en fait les sentiments d'une adolescente pour la faire réussir. Et j'avais envie de travailler sur ce décalage-là entre qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire la réussite sociale.
On parle bien de la question des sentiments entre les élèves et les professeurs. Une question qui est très sensible et très compliquée à aborder et à laquelle peut-être ce sera intéressant de parler avec vous, Jérémy Fontagneux. Alors, vous n'en parlez pas tout de suite dans le mythe du prof héros. Peut-être il faut que je vous présente un peu plus, de manière un peu plus complète. On vous connaît bien, en fait, dans cette émission, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, que je vous ai invité pour la première fois, peut-être une quinzaine d'années. Donc vous êtes toujours dans le même lycée, vous avez une présence médiatique un peu forte au début, puis après on vous a plus trop vu ni entendu dans d'autres médias, et puis vous êtes revenu avec un projet plus collectif sur une méthode d'enseignement, un collectif plutôt, qui s'appelle Réconciliation, donc qui consiste à essayer d'impliquer beaucoup, beaucoup les parents pour faire réussir les élèves. Ça aussi, on va y revenir. Le livre que vous publiez, Le mythe du prof héros, au lien qui libère, je le précise, c'est un livre qui s'attaque à la figure de l'enseignant dans nos imaginaires collectifs. Vous convoquez plein de films, plein de livres pour dire, qu'est-ce que c'est qu'un prof quand on veut bien en parler ? Est-ce qu'on va pas trop loin dans cette belle image ? Et à un moment, vous dites, est-ce qu'on les aime, nos élèves ? Et est-ce que c'est parce qu'ils nous aiment que l'envie de réussir peut s'éveiller en eux. Alors, évidemment, il y en a qui ont envie de réussir depuis le début. Et je la trouve très complexe, cette idée, parce qu'on ne peut pas juste dire que les élèves travaillent pour eux, c'est vraiment une phrase de prof. Vous travaillez pour vous, moi j'ai déjà mon bac. On ne peut pas dire que les élèves ne travaillent pas pour leur enseignant. On voit bien ce qui se passe à l'école primaire, chez les petits, on aime sa maîtresse. Alors, je ne sais pas si vos élèves vous aiment ou s'ils aiment les professeurs du projet Réconciliation, mais qu'est-ce que vous faites de cette question ? Est-ce que ça fait partie des mythes ou est-ce qu'il faut faire avec ?
Je pense que c'est l'une des choses les plus belles dans le roman de Fatima Haddas, c'est la subtilité avec laquelle ce sentiment amoureux, interdit, en même temps ambivalent, entre l'élève et son enseignante de français. Et c'est vrai que dans le livre, j'en parle comme, je le présente comme l'un des quatre grands commandements du prof héroïque. Petit 1, tu aimeras tes élèves. Petit 2, tu seras dévoué. Petit 3, tu auras une personnalité extraordinaire. Et petit 4, tu seras un exemple moral. Et il me semble que, même si en apparence c'est une très belle image et que ces quatre commandements ont l'air nobles, après tout, c'est vrai qu'aimer ses élèves, on pense souvent à Keating, comme dans le cercle des poètes disparus, comme un professeur qui serait porté par l'amour de ses élèves. Il semblerait que ce soit une bonne idée, mais il me semble que, en fait, ce n'est pas tant le cas, parce que déjà, l'amour est un sentiment complexe qui peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Il peut y avoir dans l'amour, comme dans une relation amicale ou professionnelle, des rapports de pouvoir, de domination, il peut y avoir de la condescendance. J'évoque notamment le professeur de français dans Être et Avoir, pas dans Être et Avoir, excusez-moi, dans Entre les Murs. Le professeur d'école dans Être et Avoir aime beaucoup ses élèves aussi, je crois, mais dans Entre les Murs...
Être et Avoir, c'est donc un documentaire de Nicolas Philibert qui est dans une école multi-niveau à la campagne et donc Entre les Murs...
Ça se passe au collège.
Ça se passe dans un collège de Paris, très...
Quartier populaire.
Voilà, d'un quartier très populaire, où là, on voit que les relations sont beaucoup plus difficile.
En fait, les élèves sont difficiles parce qu'ils ont du mal à tenir en place. Je trouve que c'est aussi l'une des forces et des beautés du roman Jouer le jeu, c'est que on se plonge dans l'univers des adolescents, des adolescentes, et on y voit que l'école, il y a une place infime, contrairement à ce que les adultes passent leur vie à répéter. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Les élèves, qu'ils soient enfants ou adolescents, n'ont pas du tout envie de faire les efforts. Et c'est ce qui rend notre métier très difficile. Et donc... souvent, on nous dit, mais si tu aimes tes élèves, le professeur héroïque ou la maîtresse héroïque, si il ou elle est porté par un amour de ses élèves, ça va permettre de faire réussir les élèves. Et je pense que c'est une impasse et que c'est toxique ou que ça ne peut pas marcher, c'est trop simple. Parce que tout d'abord, l'amour peut être ambigu, peut être malsain, avec de la condescendance, avec aussi, par exemple, dans Entre les Murs, il y a une forme de condescendance.
De François Bégodeau, c'est aussi un film de Laurent Cantet, où joue François Bégodeau. C'est pas complètement équivalent, d'ailleurs, le livre et le film,
oui.
Mais...
Et disons que dans le film, on voit que le professeur de français a du mal à prendre au sérieux ses élèves. Parce que, d'une certaine manière, ils ont des difficultés, ils ont du mal à tenir en place, et donc il n'a pas envie d'être si exigeant que ça avec ses élèves, et d'une certaine manière, l'amour qu'il a sincère pour ses élèves, il les taquine beaucoup, il a de l'affection pour eux. Mais il y a un peu de mépris, dans le fond, aussi. Il y a un peu de ça aussi dans le professeur qu'on voit dans Le Plus Beau Métier du Monde, quand Gérard
Alors,
Depardieu,
oui.
Un peu caricatural, mais il veut sauver ses élèves, mais un peu comme un...
C'est
du White Savior, c'est un peu colonialiste.
Plus une comédie, alors... Ouais. Il y a tellement de films sur les enseignants. Si c'est pas de l'affection ou de l'amour, puisqu'on n'est pas en train de s'occuper de sa famille, tout simplement, par quoi on remplace ? Quelle est l'éthique qui guide le...
Donc je pense que l'amour ne suffit pas. Ce genre de recette magique ne fonctionne pas. Je pense d'ailleurs qu'elle en a, Madame Fontaine, dans le livre de Fatima Das, et ça n'empêche pas que les élèves dans la classe ne se mettent pas au travail. Enfin, les descriptions des scènes de français sont catastrophiques dans le roman. Elles sont très bien décrites.
C'est vraiment le regard de prof. Non, mais en termes de séquences pédagogiques...
C'est pas ça. C'est qu'elle fait du mieux qu'elle peut, Madame Fontaine, mais en fait, les élèves font des blagues, interrompent le cours, etc. Et il y a quelque chose qui se passe avec Kaiden, et c'est très beau, mais pour la majorité des élèves, finalement, ça marche pas trop. Par quoi on peut remplacer l'amour ?
Quelle idée doit guider le professeur pour dans sa relation avec les élèves ?
Je pense qu'on improvise tous dans ce métier, et donc c'est un métier de débrouille aussi, c'est ce qui le rend difficile, ce qui le rend beau à la fois. Je pense qu'on a tous des principes moraux, mais je pense que justement, demander aux professeurs des écoles et aux professeurs de collège et de lycée de gouverner leur action par des principes moraux me semble dangereux et me semble voué à l'échec. Et par ailleurs, ça suffit pas parce que je peux être très éthique. Si mes élèves n'ont pas envie de travailler, ils ne travailleront pas. Et beaucoup de souffrance des professeurs aujourd'hui vient du fait que les élèves, pour toutes sortes de raisons qui sont très bien expliquées dans le livre, puisqu'on voit que les adolescents ont beaucoup de choses plus intéressantes que l'école dans leur vie, à leurs yeux évidemment, mais du coup, pour toutes ces raisons, nous, assez vite, on affronte en quelque sorte ce manque de bonne volonté. Mon éthique ne suffira pas à donner envie aux élèves de faire les efforts.
C'est intéressant parce que certains répondent le respect C'est ce qui doit guider l'action. Éric Préra, qui est philosophe, réfléchit à ces
questions. Je pense que ce sont des conditions.
Il y a des livres de 500 pages sur cette question.
Je pense que ce sont des conditions, et sans ça, c'est difficile. L'une des premières scènes...
Nécessaire, mais pas suffisante, c'est ça que je voulais dire.
Exactement, c'est-à-dire qu'au tout début, lorsqu'il y a la rencontre avec la seconde 6, elle écorche le nom de Toufik. Elle l'appelle Taoufik, et il la corrige. C'est un manque de respect involontaire de la part de la professeure, mais du coup, il y a quelque chose qui se casse d'ores et déjà dans cette relation-là. Et donc, du coup, c'est comme si, en demandant au professeur, à la fois par l'éthique, par la morale ou par des principes, d'être suffisamment solide pour embarquer les élèves, comme si, c'est l'un des quatre commandements dans le livre du mythe des profs héros, il fallait être moralement exemplaire, comme si ça allait pousser les élèves à faire les efforts. Ça, c'est un mythe qui est très, très intériorisé par nous, les enseignants, et puis aussi par les élèves et par les parents, qui espèrent que leur enfant va connaître le succès à l'école grâce à un prof magique. Mais ça, il me semble que c'est toxique, parce que ça déresponsabilise un peu les élèves, ça déresponsabilise un peu les familles, et ça fait tout porter sur les profs, en quelque sorte, qui sont par ailleurs des êtres humains faillibles, et qui peuvent avoir des ambiguïtés, comme c'est très bien montré dans le roman de Fatima Das.
Et on revient au roman, et même... à l'écriture, Fatima Das, parce que dans ces courts chapitres qui s'enchaînent, certains sont un peu le journal intime de Kaiden, enfin un peu même complètement, en tout cas des écrits sur la situation qu'on est en train de vivre avec elle dans le cours de cette histoire, qui va de ce qu'on a au concours de Sciences Po. Et elle imagine, Kaiden, une autre fiche de renseignement. Et il y a beaucoup d'élèves qui remplissent en ce moment des fiches de renseignement. Une autre fiche est possible.
Sinon, je n'avais pas de très bons résultats au collège. C'était moyen, mais je me débrouillais bien en français. Plus tard, je ne sais pas ce que je voudrais faire. Parfois, je pense au métier de prof, mais il y a pas mal d'inconvénients. Je n'ai pas très envie de noter les élèves, distribuer les bons et les mauvais points, me foutre de leur gueule en salle des profs, en exposant leurs fautes de vocabulaire, les trouver incultes parce qu'ils ne connaissent pas la date de la prise de la Bastille ou l'histoire de Louis XVI. Imaginez que je me mette à leur rappeler qu'ils ont de la chance d'avoir accès à l'école de la République gratuite, que là-bas en Afrique ce n'est pas pareil, ça craint non. Je ne sais pas si j'aime vraiment l'école. Ce que je sais, c'est que j'aime lire. Surtout des romans, parfois de la poésie, et aussi des essais quand l'auteur n'utilise pas des mots compliqués alors qu'on sait tous qu'il pourrait écrire plus simplement. Pendant mon temps libre, j'écris. Mais j'écris aussi quand je n'ai pas le temps. J'en ai besoin. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai écrit quand Soraya, une fille de ma classe en primaire, a déménagé du jour au lendemain. J'ai écrit des nouvelles, des portraits et des textes sur mon carnet. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans l'écriture. Voilà, je crois que j'ai répondu à la fiche de renseignement.
C'est très beau, très personnel, je pense, Fatima Das. Ça dit aussi quelque chose de ce que l'école fait et ne fait pas, c'est-à-dire qu'on peut porter des élèves vers la réussite et on peut aussi rater complètement des élèves qui ont plein de potentiel, qui ont envie d'écrire, peuvent avoir une multitude d'autres aptitudes et qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas.
Oui, c'était très important pour moi justement de ne pas parler d'individus, ni de parler seulement des enseignants et de leurs responsabilités, mais de parler d'un système et de ce que le système de l'école produit sur les corps des adolescents, issus des quartiers populaires pour le coup, et de montrer en fait qu'est-ce que ça peut faire dans un groupe d'amis qu'une élève soit choisie pour représenter voilà un modèle méritocratique, tandis que d'autres comme Jenna par exemple n'est ni poussée ni regardée ni entendue et subit du racisme systémique à l'école. Pour moi c'était très important de parler de cette violence là. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence là? Il s'agit pas seulement de voilà, moi je les déteste pas mes personnages, que ce soit l'enseignante ou voilà tous ces personnages là, je les écris
avec les lecteurs et lectrices non plus, je pense vont pas les détester, vont même plutôt tous les aimer.
Je ressens de la tendresse pour mes personnages, beaucoup pour les adolescents parce que c'est leur voix que j'ai envie de porter, et je pense que c'est très important de de revenir là-dessus, quoi, de revenir sur ces chemins tout tracés et de comment on peut faire en sorte que ça n'arrive pas ou que ça n'arrive plus et comment on fait en sorte que cet idéal de liberté, égalité, fraternité existe réellement en France.
On y revient tout de suite, mais c'est pas rien d'aimer écrire. C'est pas rien d'avoir ça dans sa vie.
Oui, ça sauve. Je pense que ça sauve. En tout cas, le personnage de Kaiden, si elle n'avait pas l'écriture, elle n'arriverait pas à comprendre ce qui se passe dans son corps. Elle n'arriverait pas à comprendre la violence de cette relation avec cette enseignante. La violence de voir un tri que l'école trie, sélectionne, façonne l'extrait de son groupe d'amis et la rend exemplaire. Et c'est l'écriture qui va venir. Entre guillemets, la sauver, et en tout cas lui permettre de trouver un espace de liberté pour comprendre.
Un inspecteur général de lettres qui s'appelle Olivier Barbaran, qui est aussi poète, disait dans cette émission, c'était il y a quelques années, sur la poésie Les spécialistes d'Aragon, que les élèves ne lisaient pas forcément, mais qu'il y avait beaucoup d'élèves qui écrivaient, par exemple, des paroles de chansons, des poèmes, beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est une pratique qui est un peu sous-exploitée, d'ailleurs, plus beaucoup d'écriture créative à l'école. Est-ce que vous allez d'ailleurs dans des établissements ?
Tout à fait. J'ai fait beaucoup de rencontres avec des lycéens et des collégiens et j'ai adoré ça. C'était des rencontres incroyables. Et j'avais l'impression que justement, c'était des moments où on pouvait avancer ensemble, quoi. Parce que créer un espace où des adolescents n'ont pas peur de parler, n'ont pas l'impression que forcément ça va déraper s'ils disent une connerie ou s'ils disent quelque chose qu'ils pensent à tel moment. Et ça peut changer, quoi. Dans la vie, c'est des adolescents, ils sont vulnérables. Donc moi, je pense que c'est très important qu'on autorise ces paroles-là, même si elles peuvent être violentes pour nous, les adultes. Mais c'est à nous de les réceptionner, c'est à nous d'en faire quelque chose à ce moment-là. Parce qu'après, c'est trop tard. Ça devient des adultes homophobes, ça devient des adultes racistes, ça devient des... C'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir en parler, quoi.
C'est ce que disent beaucoup d'enseignants, en tout cas ceux qui ont pu venir dans Être et Savoir. Alors, il y a un petit sujet de eux et nous dans ce théâtre qui est l'école, en tout cas cette place où va se dérouler l'histoire. C'est pas un lieu fermé, hein. Il y a d'autres endroits dans le roman. Un proviseur, des enseignants et un surveillant, dont on comprend qu'il est noir, et par son prénom, en tout cas, on le suppose, et des élèves noirs ou maghrébins, c'est ce qu'on pense. Alors, maghrébin, je ne sais pas si tout le monde utilise ce terme, c'est le terme qu'on utilisait quand j'étais petite, et parfois je reprends par réflexe, en tout cas, des Français d'origine variée, et qui ne s'appellent pas Laetitia, comme celle dont Jen a dit qu'elle va être mieux orientée, alors qu'elles ont tout à fait les mêmes notes. Il y a un peu un eux et nous, moi je trouve qu'ils se jouent parfois à l'école. Je lisais, parce que je regarde un peu les livres qui sortent, même pas sur l'éducation, que le juge Youssef Badrou vient de publier « La justice aux mille visages », le mythe français de l'égalité des chances, et il dénonce le fait que même les jeunes qui réussissent en droit, ce sont des parcours très longs, ne trouvent pas de stage. C'est-à-dire que même une fois qu'on a passé un petit peu toutes les balises définies par les professeurs, même si on s'est fait bien accompagner. Et là, je me tourne vers vous, Jérémy Fontagneux. Il n'y a pas forcément de place derrière. Est-ce que ça vous en parle ? Vous êtes quand même prof de SES, donc il y a sociologie dedans, mais aussi l'économie. Est-ce que vous en parlez de ces conditions, mais du marché du travail, oui, de la façon dont on va pouvoir ou non, derrière,
oui, et des...
jouer sa carte, tenter sa chance et jouer le jeu.
De la violence de la société française. C'est vrai qu'en SES, on a la chance, dans le programme de sociologie, en terminale, d'étudier la structure sociale et de présenter et de voir avec les élèves quels sont les éléments qui suggèrent que les classes sociales n'ont pas disparu. Et du coup, il y a un chapitre sur l'école qui est sorti du programme, mais on parle dans le chapitre sur la mobilité sociale du rôle de l'école en tant que promesse de mobilité sociale qui n'est absolument pas tenue, comme le rappelait Fatima Das tout à l'heure, et comme on le sait ici, pour en parler beaucoup, sur le fait que l'école favorise plutôt la reproduction sociale, et donc l'hypocrisie qu'il y a derrière ce discours d'égalité des chances. Mais du coup, le plus injuste peut-être, et c'est pour ça que dans l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, on pourrait se dire que c'est violent dans la bouche de Kaiden de dire, imaginez si j'étais prof, il faudrait que je tienne des discours condescendants et limite racistes en quelque sorte. Et c'est vrai que moi, il y a certains passages dans le roman qui m'ont pincé le cœur, blessé en tant que prof en quelque sorte. Mais ce que je trouve beau dans l'écriture et dans ce que vous rappelez...
Je veux bien savoir ce que vous a blessé.
Mais du coup, cette phrase-là, par exemple, imaginez si je devenais prof, il faudrait
que... Je suis obligé d'être injuste, en fait.
C'est ça, il faudrait que je sois condescendant et que je sois presque limite colonial si j'en sais en banlieue. Et en fait, ce qui est beau, à la fois dans le roman, dans ce que vous en dites, c'est que c'est pas une question de personne. Les professeurs sont les premières victimes de cette injonction qui nous est faite à nous en tant qu'enseignants d'incarner les valeurs de la République, les valeurs de l'humanité, l'honnêteté, la morale. Enfin, je reviens au mythe du prof héros parce que c'est une bonne illustration de ça. C'est-à-dire, il faudrait que nous incarnions la vérité et une forme de morale, ce qui n'est pas possible pour un être humain, encore moins quand on a en face de nous tant d'élèves qui ont beaucoup de raisons d'être en colère, parce que notamment dans les quartiers populaires, les élèves n'ont pas besoin d'avoir fait de la sociologie pour savoir qu'il y a beaucoup de mépris social en France, il y a beaucoup de reproduction sociale, il y a beaucoup de racisme.
Et cette question...
Et c'est pareil pour le patriarcat, l'homophobie, etc.
Comment on l'aborde quand on s'appelle Madame Fontaine ou Monsieur Fontagneux et qu'on a en face de soi des Kaiden, des Jenna, des Samy est-ce que c'est un sujet qu'on aborde, parce que les élèves en parlent beaucoup de leurs origines, de leur religion.
Tout à fait.
C'est un sujet important.
Ce qui est beau, c'est qu'avec les enfants...
Et je pense que même quand c'est Paracel, c'est social et que les élèves le savent, en ruralité, en Picardie, partout, en Picardie, en Dordogne, enfin tout ça peut se jouer de mille façons. Hein.
Ce qui est beau avec les enfants et les adolescents, ce qui est violent, mais ce qui est beau, c'est que le sentiment de justice qu'ils ont au fond d'eux, il est inaliénable, d'une certaine manière. Ils sentent par intuition quand les choses ne sont pas justes. Et donc, dans les quartiers populaires, tous les professeurs savent que les élèves en face d'eux ne sont pas dupes. Ils savent que l'école ne tient pas ses promesses. Ils savent que notre société française fonctionne de façon catastrophique. Alors après, c'est vrai qu'on a la chance en SES, en sociologie, d'apporter des travaux, d'apporter des statistiques qui objectivent. Et donc les élèves disent, je le sentais alors. On se fait avoir, pour le dire gentiment. Ils ne disent pas comme ça, parce qu'ils ne parlent pas. Parlent de manière plus fleurie, comme dans le roman. Ils utilisent des expressions plus cash, que je ne saurais dire à l'antenne. Mais du coup, ils disent, oui, c'est donc bien ce qui me semblait. Après, on est tous à la fois le produit de notre environnement, et je ne sais pas si la liberté existe, mais on essaye tous, comme l'héroïne du roman, Kaiden, de trouver des espaces de liberté. C'est vrai que nous tous, en tant qu'enseignants, on essaye de donner aux élèves des clés qui leur permettent d'essayer de conquérir leur liberté par le travail, par les efforts. Ce qui est sûr, c'est que si on abandonne et si on ne fait pas les efforts, par exemple, nécessaires à la réussite scolaire, elle ne va pas arriver de manière automatique. Et c'est, pour en revenir au quotidien que les enseignants qui ont repris, moi le premier, il y a deux jours, la frustration et le sentiment d'impuissance que nous avons, c'est que nous voulons transmettre aux élèves ces clés-là, mais si eux ne veulent pas les recevoir ou si eux ne veulent pas faire les efforts nécessaires pour arriver à obtenir ces clés-là et pour nous permettre de les aider... du coup, ils sont perdants, nous aussi, et les familles aussi.
Pour vous, il y a vraiment la question de la volonté des adolescents qui voudraient pas que ça marche.
Pas dans le sens.
Non, mais qui sont pas, qui n'y arrivent pas, quoi. Qui n'arrivent pas à se connecter à l'école et à trouver du sens.
Oui, parce que quand...
Est-ce que c'est une question de travail, moi? C'est ça que je me demande.
En fait, c'est
la question de est-ce que les élèves devraient plus travailler? Est-ce que la question c'est ça, en fait? Est-ce que la question c'est si tu travailles beaucoup, si tu travailles plus, tu vas y arriver? Est-ce que c'est ça la question, ou est-ce que c'est pas un système qui broie? Et si c'est un système qui broie, qu'est-ce qu'on fait?
Bien sûr. En fait, je pense que nous tous, en tant qu'enseignants, dès l'école maternelle, on fait faire des choses aux enfants qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que c'est de la réflexion, c'est des efforts répétés, c'est se concentrer sur une seule tâche. Alors, c'est vrai que les enfants d'enseignants ou
oui, j'allais dire,
de cadre,
ça dépend des enfants.
Ça dépend des enfants. Et en fait, les enfants d'enseignants, les enfants de cadre sont plus souvent familiers avec ça et donc ils ont moins de difficultés. Mais du coup, même les enfants de cadre et les enfants d'enseignants, et dans le collectif Réconciliation, le fait d'aller chercher les familles, de créer une alliance pour dire aux élèves, fais plus
mais
d'efforts que d'habitude.
Ça efface pas les inégalités à l'école.
Ça efface pas les inégalités à l'école. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, à Drancy, comme la grande majorité des enseignants en France, sont frustrés parce que ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour aider les élèves. Et les élèves, c'est pas qu'ils disent « je n'ai pas envie de travailler, je refuse le système, etc. » C'est plutôt ils manquent de confiance en eux, ils ont peur du regard des autres, comme c'est très bien décrit dans le roman d'ailleurs. Ils ont des difficultés cognitives ou intellectuelles qui rendent ce travail scolaire difficile. Ils ont la flemme par ailleurs, c'est des ados. Ils ont des choses qu'ils estiment beaucoup plus importantes. Et pour toutes ces raisons, ils ont du mal à arriver à l'heure, à avoir leurs affaires, à être concentrés en classe, à faire les efforts nécessaires pour y arriver un peu plus que s'ils ne font rien, en quelque sorte. Donc, évidemment que quand tous les professeurs disent à leurs élèves « si tu révises plusieurs jours à l'avance, tu réussiras mieux que si tu ne révises pas », nous ne disons pas « et donc dans la vie, tu pourras obtenir tout ce que tu veux par le travail ». Il ne faut
sûr.
Pas être naïf.
Mais ça ne répond pas tout à fait.
Il faut pouvoir avoir trois jours avant pour se mettre au travail. Il faut avoir une chambre à soi, il faut pouvoir avoir un bureau, il faut pouvoir avoir des cahiers, il faut pouvoir avoir une bibliothèque.
Non, pour réviser son cours, non, vraiment, les enfants, les adolescents.
Pour moi, il y a des choses à mettre en place. Je pense que
non, parce que s'ils ont un temps d'écran de 5 heures par jour, ils peuvent en passer une au boulot scolaire. Non, c'est il y a une partie de flemme, mais qui est pas. Je condamne pas du tout les élèves, et je pense qu'il ne faut pas. C'est vrai que souvent nous, les professeurs, y compris dans le film Entre les murs, on voit un professeur de technologie qui dit maintenant il y en a marre de ces élèves. Enfin, il a de la colère en quelque sorte en disant regarde-les, ils sont bons à rien, etc. Et c'est vrai que parfois il y a des mots qu'on ne pense pas, qui sont tirés de cette frustration là. Je pense qu'il faut pas en vouloir aux élèves de ne pas vouloir faire les efforts. Après, je pense qu'il faut être lucide sur le fait que à l'heure actuelle, tel que notre système scolaire fonctionne, les professeurs sont seuls face à des élèves qu'ils veulent aider, mais qu'ils n'arrivent pas à aider, parce que les élèves, pour toutes sortes de raisons, n'y mettent pas assez du leur.
Les élèves aussi sont très très seuls.
Et j'ajoute la question que je voulais un peu ajouter tout à l'heure, et désolée Fatima, je parle un peu sur votre voix, mais il y a aussi la question de la volonté. On pourrait imaginer que certains élèves ne veulent pas jouer le jeu. Puisque de toute façon, à la fin, ils vont perdre. Enfin, je ne sais pas, hein, ça peut s'envisager aussi.
Oui, mais la mère Aïcha, dans le roman La mère de Kaïden, a élevé sa fille, comme tous les parents élèvent leurs enfants, dans des valeurs type « dans la vie, il ne faut pas mentir, dans la vie, il ne faut pas tricher, et pour obtenir ce que tu veux, il faut te battre », comme Aïcha l'a fait, parce que élever des enfants, c'est faire des efforts, c'est pas se sacrifier, mais en tout cas, c'est du travail. Et si on ne s'occupe pas de ses enfants, bah, ils partent en vrai. Et la mère d'Aïcha a fait un travail en temps plein.
C'est très difficile de devenir journaliste quand on vient d'un milieu populaire. Parce que, alors s'il y a des responsables d'école de journalisme, vous pouvez m'écrire, mais statistiquement, on le voit hein, dans les rédactions. Bien c'est sûr. Très difficile parce que ce sont des écoles payantes, que de toute façon, avant l'école, il faut faire une licence, donc ça prend du temps, ça coûte cher. Donc, en fait, on peut commencer par jouer ce jeu, mais il y a moins de chances.
Absolument, mais c'est sûr que quand on regarde...
que ça marche, on ne décrochera pas les mêmes stages. Enfin,
évidemment.
Et on essaye de prendre des stagiaires.
Et c'est l'hypocrisie de la société. Et bien sûr, mais je pense que nous avons tous, collectivement et individuellement, des raisons de baisser les bras et d'être fatalistes et d'être résignés. Parce que le système scolaire dysfonctionne complètement, la société française dysfonctionne complètement. Il y a une extrême droitisation.
C'est le système qu'il faut changer, c'est pas les enfants ou les professeurs.
Peut-être qu'il faudrait moins compter sur les diplômes. Est-ce que, en tant que professeur,
absolument, je pense qu'il faudrait changer la société dans son temps. C'est juste que moi, quand je reçois les élèves, très concrètement, hier, demain, vendredi, et c'est pareil pour les professeurs des écoles, ma femme qui est professeur des écoles et tous les professeurs des écoles de notre pays. Bien sûr qu'il faut tout changer, évidemment. Et je serai dans la rue, comme beaucoup de collègues et comme beaucoup d'autres Français, mercredi
vous
prochain.
Vous allez être compté en temps politique, Jérémy Fontanus, si vous
continuez. Pardon. Mais du coup, par ailleurs, à notre petite échelle, vous n'allez pas changer le monde avec des romans. Mais vous le faites,
non,
parce que ça correspond...
Non, moi, je ne considère pas du tout que
vous
je vais changer
ce que je veux
le
dire.
Monde.
C'est ça. Et moi non plus, en tant que professeur, je ne vais pas changer le monde en poussant mes élèves à réviser davantage que quand ils font au talent. Par contre, à ma petite échelle, en faisant ça... En l'occurrence, avec la méthode réconciliation, c'est aller chercher les familles. Et on voit que les élèves font deux fois plus d'efforts que d'habitude et qu'ils prennent goût à ça. Mmh. Et que du coup, ils sont fiers d'eux et que les parents sont fiers d'eux et que nous, profs, on ne subit plus. Du coup, je sais par ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je sais que, par ailleurs, il y a tellement de raisons de baisser les bras. Mais à ma petite échelle, du coup, je ne subis pas. Et j'ai l'impression d'être libre, comme vous le disiez joliment pour Kaïden. et j'ai l'impression d'être heureux ou d'être moins malheureux que je l'étais avant quand mes élèves me disaient « on t'aime bien, mais on va pas faire les efforts parce qu'on a des raisons de pas faire les efforts ».
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Je suis le fruit d'une fracture, le fruit du grabuge. Je suis le fruit d'un bourbier, le fruit d'une bavure. Le fruit d'un ouvrier, le fruit d'une rature. J'ai attendu 30 balais pour devenir mature. Ils oublient que j'ai des mauvais penchants, mauvais en sport et en chant. Si on se fait accuser, parle profondément. S'ils font culer, car là profondément, mes scarnales font gaiement. J'espère que c'est le paradis qui m'attend. Mais comme tous les fils d'Adam, gros, je suis sur la file d'attente. Je me suis relevé chaque fois que je suis tombé. On était amoureux et si comblés. Mais comme à chaque fois j'ai succombé, je sais pas ce qui fait que je suis con, peut-être je suis fou, peut-être que je suis.
Mauvais curriculum, existence triste. Puis le berceau, j'ai l'impression qu'on était pisté. Je passe pas inaperçu. Ma mère, elle m'a appris à faire plus. C'est pour ça que je fais des interviews, on dirait des interludes. La nuit j'ai les crocs qui poussent et avec ou sans pleine lune. Toujours faut que ça rappe au chromie. Les trois quarts de mes gars sont solides. Débarquer des bateaux maudits, je te ramène cette cacophonie. Comme si c'était hier, quand les voyous dansaient sur d'autres BPM. J'ai connu des séances pleines de déchéances. J'ai fait du surplace avec des géants.
À la base j'étais le plus mignon, vos cerfs en ébullition. Je me calmais pas sans punition, trouver sa voix c'est une mission. Gros sac, faut que je fasse du cash pour que mamie parte en croisière. Mais je fais du rap, j'ai un scooter comme si je passais en troisième. Eh, y'a le logique, y'a même le woof, on t'emmène à même le hood. Quand on a une angine, on tient à peine debout. Mais on dit qu'y'a rien, qu'on perd des proches, qu'on a des galères de ouf.
Je veux brasser comme le petit frère à Jamel debout. J'entends mon blaze au tribunal dans des affaires de poudre. Mais pourtant, je veux les mêmes métaux lourds que les ravisseurs. J'observe la piste de danse, ghetto Youchina dit club. On a poussé avec tout plein de petits blèmes pro. C'était le système des mais avec la Nintendo. Je rêvais d'un peu plus de thunes, mais je sais que j'irai pas loin avec ma putain de littérature de rue.
Pourquoi est-ce que je monte là ? Tu peux répondre.
Pour vous grandir ?
Non ! Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas ? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez, libérez-vous. Et regardez bien, ne sautez pas de là-haut les yeux fermés. Bien, voilà, c'est ça, monsieur Frisky, merci, c'est ça, oui. Osez, allez à la conquête de terre vierge.
On a entendu Inadi Club par Isha et Limsa Dolné, un choix musical de Fatima Das, autrice de Jouer le jeu, publié en cette rentrée aux éditions de l'Olivier, et un extrait du Cercle des poètes disparus, adapté aussi en pièce l'année dernière. Le film date de 89 et c'est un film que les profs détestent parce qu'ils célèbrent le super prof. Alors c'est peut-être la face d'un autre côté pile où on dit bah les profs ont beaucoup de vacances, ils ne travaillent pas assez. On est très schizophrène dans la société française à l'endroit de cette catégorie professionnelle. Est-ce que vous avez pensé à ça, à cette comment on traitait différemment la figure du professeur qui est souvent célébré ou parfois dénoncé comme la personne qui a pourri la vie de quelqu'un. Là, on est sur quelque chose de plus subtil. Fatima Das, avec une histoire très forte de sentiments. C'est hyper original, en fait, comme figure d'enseignante. Et très complexe.
Moi, j'ai essayé d'être au plus proche du réel. J'ai essayé d'essayer de me souvenir un peu comment étaient mes professeurs au collège et au lycée. Et aussi, pour en avoir rencontré quand j'ai fait des interventions dans des collèges et des lycées, J'ai l'impression d'essayer d'attraper quelque chose du réel, quoi. À quoi ils ressemblent les profs d'aujourd'hui dans les lycées, dans les quartiers. Essayer d'être au plus juste de ça. Comme tout le monde, j'ai été aussi influencée par des films sur les profs. Mais moi, là, mon endroit, c'était autre chose, quoi. J'avais envie d'être plutôt dans la peau des adolescents et montrer plutôt leur regard sur leur enseignant, quoi. Et quelles relations ils ont, je pense là à la professeure Madame Mazoyer, la professeure d'histoire géo qui fait cours à sa classe sur un cours sur la laïcité et la difficulté de venir parler de laïcité pour elle, parce que d'entrée de jeu elle se dit mais ça va déraper, et Madame Mazoyer a peur de ses élèves et elle a peur que ça dérape, elle a peur pour sa sécurité, quoi. Et ça m'intéressait aussi d'aller décrire ça. Qu'est-ce que ça fait quand on est enseignant d'avoir peur d'adolescents?
Ça aide pas, la peur pour enseigner. On le sent dans le texte, et des professeurs en ont parlé aussi, alors pas forcément du côté de la peur, mais parce que c'est difficile de parler de laïcité, c'est facile, mais que les élèves vont avoir plein de questions et qu'au bout d'un moment, parfois, on n'est pas assez équipé en termes de formation, même si ça a progressé en tant qu'enseignant, pour répondre. Vous avez eu des échos, des réponses, des commentaires d'enseignants ou d'enseignantes par rapport à ce livre et par rapport à ce qui est aussi une histoire sentimentale, je le redis, entre une élève et sa professeure. Alors, c'est pas une histoire... Je veux pas tout dire, en fait. Je lise le livre.
C'est plus complexe qu'une histoire.
C'est beaucoup plus complexe, mais oui, c'est dans l'histoire. Est-ce que des professeurs vous en ont parlé?
Alors, pas encore. J'ai pas reçu beaucoup de retours d'enseignants, mais j'en ai reçu quelques-uns. Et notamment quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait le faire lire à sa classe et que c'était important pour elle de le faire lire aux adolescents. Pour revenir sur la relation sentimentale, bon, c'est une relation de pouvoir entre un adulte et une adolescente. Il y a pas de question là-dessus. Pour moi, c'était important de montrer, qu'est-ce que ça fait quand une adolescente sent qu'elle ressent de l'amour pour son enseignante. En fait, c'est pas de l'amour, c'est la première fois qu'elle a l'impression de savoir qu'elle est lesbienne, et donc elle ressent, elle admire cette enseignante-là. Et l'enseignante va s'en rendre compte, en tout cas moi je l'ai écrit comme ça, alors je sais pas si tout le monde va le sentir de cette manière, mais on sait que l'adulte sait quand un enfant nous regarde, quand un enfant nous désire, on sait ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'adulte n'est pas capable d'arrêter ça?
C'est intéressant d'entendre votre commentaire, parce que on peut le lire de plein de façons, et je sais pas si je l'ai reçu comme ça vraiment. Mais peut-être beaucoup du côté de l'adolescente, parce que Kaiden, c'est un personnage, je pense, auquel on peut s'identifier très fortement. Je n'ai pas du tout grandi dans le même genre de situation, de milieu, et surtout pas à la même époque. Il y a aussi tous les téléphones, les textos, tout ce qui fait la communication d'aujourd'hui, la musique. Dans ce livre, il y a beaucoup de musique. J'aurais abordé un autre sujet sur le lycée d'aujourd'hui, et ça me semble extrêmement important. C'est un échange, donc je vais lire un petit extrait, entre le proviseur et un surveillant qui s'appelle Houssani Diop. Le proviseur lui dit « Dorénavant, on signale tout profil qui sortirait du cadre. Vous listez, c'est simple. Vous prenez une feuille, vous listez. » On sait qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans un établissement scolaire du secondaire sans son carnet. Hein. Il y a quelque chose d'un peu carcéral, sans faire forcément référence à Foucault. Bon, là-dessus, Houssani Diop répond qu'il est pas du tout d'accord. Les gamins, je les connais presque tous. Je connais leur famille, je connais leurs grands frères, leurs petites sœurs, leurs parents. Je les ai vus grandir. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. J'ai sauté quelques lignes. Ces élèves, je ne les trouve pas suspects. Je n'ai pas envie de les suspecter de quoi que ce soit. C'est des enfants pour moi. Si je suis là, ce n'est pas seulement parce que j'ai besoin de payer mon loyer. J'en ai besoin, bien sûr, mais je pourrais très bien bosser chez Aldi, juste en face de chez moi. Bref. Si je suis là, c'est pour eux, pas contre eux. J'ai envie qu'ils tiennent, qu'ils aient envie de venir au lycée ce matin, qu'ils trouvent la bonne filière, qu'ils apprennent des choses qu'ils transmettront à leurs enfants dans 20 ans. Peut-être que je vis dans un monde de bisounours, monsieur le proviseur, comme vous dites, mais je ne vis pas dans un monde où je suis militaire, je ne suis pas un policier, je ne bosse pas dans un lycée pour contrôler le corps des élèves, je ne suis pas là pour ça. Il dit quelque chose de l'école d'aujourd'hui, ce passage, pour moi.
Ouais, tout à fait.
Fatima Das.
J'avais envie de créer un personnage justement d'adulte qui a conscience de ce que l'école peut produire sur les corps des adolescents, des quartiers populaires, quoi. Et Houssani, il en a marre, quoi. Il en a marre, d'avoir ce rôle-là aussi. Il en a marre de devoir vérifier les tenues des filles, des lycéennes. Il en a marre de voir des élèves qui n'ont pas la bonne orientation, celle qu'ils ont demandée. Il en a marre de ce système-là. Il en a marre aussi de voir des enseignants épuisés. Il partage aussi la fatigue de Madame Mazoyer, par exemple, dans la salle des profs. Donc, il est un peu le témoin de toutes ces inégalités, de toutes ces injustices. Donc, et puis, comme il le dit, il connaît ses enfants. Il les connaît aussi en dehors de l'école. Donc, je trouvais que c'était important de parler de ces personnages-là, de ces personnes-là, des surveillants, des pions. La place qu'ils ont dans l'éducation nationale aussi, c'est important.
C'est bien qu'il y ait ce personnage, c'est vrai. Ça complète aussi le décor. D'ailleurs, dans le film de Thomas Litty, que moi j'avais beaucoup aimé sur l'école, un enseignant a fait remarquer qu'il n'y avait pas de surveillant et pas de CPE, et donc c'était pas possible. Et pourtant, j'ai quand même bien aimé. Jérémy Fontanieux, on va revenir sur la figure du prof, mais sur cette ambiance aussi de surveillance. Et on sait qu'il y a des faits de violence hyper graves dans les écoles, qu'on se dit, voilà, il faut peut-être contrôler les sacs. On veut pas qu'il y ait de téléphone parce que effectivement ça fait perdre du temps, mais en même temps ça exige une surveillance continue des attitudes, si ce n'est des corps.
Oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que l'école doit être un lieu d'émancipation, que les professeurs des écoles et les professeurs du secondaire ont décidé de devenir enseignants pour essayer encore une fois de donner aux enfants et aux adolescents des clés pour conquérir leur liberté, pour grandir. Et au lieu de ça, l'école devient de plus en plus un lieu de contrôle, en effet, et d'autant plus dans le climat intellectuel et politique qui est le nôtre, fascisant, et avec les exhortations à l'autorité, avec un grand A, comme si demander aux élèves d'être debout ou mettre un drapeau français au fond de la salle allait changer quoi que ce soit, outre le fait de rajouter de la violence symbolique, encore une fois. Donc c'est vrai que les coups de menton qu'on entend de plus en plus avec les progrès de l'extrême droite dans le paysage politique et médiatique. Pour nous, enseignants sur le terrain,
ça ne peut pas vous aider, par exemple, parce qu'il y a plus d'heures dans les classes, parce que c'est ça,
c'est
l'argument, et ça s'entend. Enfin.
En fait, ce dont on a besoin, nous, c'est tout d'abord de politiques éducatives qui soient à la hauteur, c'est-à-dire en termes de discours, en termes de salaire, de conditions de travail, de gestion des ressources humaines. Les professeurs sont en souffrance, tout comme les assistants d'éducation. Les CPE et les personnels médico-sociaux en collège et en lycée. Donc on a besoin de politiques qui soient à la hauteur et pas d'un guide qui nous aide à faire des cours avec l'IA, sans citer personne. Et par ailleurs, en classe, tout professeur sait, dès la maternelle, que la relation pédagogique est une relation dans laquelle de la confiance doit permettre aux enfants et aux adolescents de faire ces efforts qui sont désagréables mais sans lesquels dans la vie on n'obtient rien. Et donc la confiance ne se décrète pas avec des coups de menton. Et c'est vrai que ce passage-là du proviseur est très violent, et encore vous en avez coupé les parties racistes.
Je sais pas si j'ai coupé, enfin je me suis arrêtée à un moment, mais c'était pas pour éluder en tout cas.
Non, bien sûr, mais cette tentation-là de dire on va dresser les élèves, ou alors il faut sévir, c'est pas comme ça qu'on fait naître chez les enfants et chez les adolescents l'envie de travailler, même si, encore une fois, on revient à la solitude des professeurs. Les professeurs seuls face aux élèves, me semble-t-il, peuvent très difficilement y arriver. Quand on y pense, c'est quasiment mission impossible, quoi.
D'où l'importance des collectifs. Fatima Das, je voudrais vous soumettre une citation. Alors c'est Bernard Lahaire qui était lundi au matin de France Culture, qui citait l'historien Marc Bloch, alors Bernard Lahaire, les sociologues, qui disait « on remplace le goût de la connaissance par le goût du succès ». C'est-à-dire en poussant les élèves vers des concours plus difficiles, voilà, c'est ça qui serait la motivation, et que finalement on pourrait aimer en savoir plus, écrire davantage, progresser par soi-même, et que ce goût de la connaissance, il n'est pas très présent dans le rapport à l'école, ni dans ce que vous décrivez. En fait, on le sent chez les élèves, chez les élèves qui sont des ados, en fait, dans le livre, c'est pas des élèves seulement, mais ils sont aussi élèves par ailleurs. On sent que ce sont des gens curieux, curieux de la vie, curieux des autres, plein d'humour, il y a plein de scènes, je vais te lire
tout les
passages.
Tout à fait, moi, je pense au personnage de Jenna qui n'a pas forcément les bonnes notes qu'on attend, qui, elle, est... qui a un esprit de justice et qui par exemple dans ce cours là de sur la laïcité va représenter le groupe et va venir face à la classe et débattre avec Toufik. Donc elle a envie de comprendre, elle a envie d'apprendre. C'est pas un manque de désir chez les adolescents, il y a pas un manque d'envie de connaissance. Mais il y a le fait de pas être vu comme une adolescente, il y a le fait d'être un potentiel danger, il y a le fait
de pas se sentir compris,
il y a le fait que ils ont aussi des envies, mais ils savent d'entrée de jeu que ça va pas être possible. Jenna, elle adore décorer par exemple, mais elle sait que c'est mort, quoi.
Est-ce que le fait de lire, pas forcément dans des objectifs scolaires, représente encore une ouverture aujourd'hui? Est-ce que le public des banlieues, des adolescents, pourrait vous lire? Enfin, moi, je pense qu'ils pourraient vous lire, mais est-ce que vous arrivez à l'atteindre dans un moment où on lit moins? Alors, pas du tout que les jeunes, tout le monde. Voilà, est-ce que ce médium du livre, c'est le bon aussi pour leur parler de ces sujets qui les préoccupent?
Je pense que ça dépend vraiment des parcours. Je pense que c'est pas une évidence de lire, quoi. C'est pas une rencontre qui se fait facilement. Si on n'est pas poussé à lire, si on rencontre pas le bon livre, c'est pas le même parcours pour tout le monde, quoi. Donc ça dépend. Après, moi, oui, il y a beaucoup d'adolescents qui ont lu, notamment La Petite Dernière, et j'ai adoré qu'ils me disent que c'est écrit simplement. J'ai adoré qu'ils me disent qu'ils se sont reconnus dans des personnages, qu'ils ont été émus de voir une famille pas trop clichée. Et je trouve ça hyper important. Mais c'est comment on fait pour qu'ils trouvent les bons livres? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Quel livre peut les marquer à tel moment de leur existence?
Ou quel film? Puisque La Petite Dernière est adaptée au cinéma, il y a une bonne scène de révision. On va l'écouter ensemble.
Mais il exprime notamment de la souffrance.
Oh, tu suis ou tu manges?
Mais je t'écoute.
Tu m'écoutes de quoi? Tu vérifies même pas.
Mais je t'écoute, vas-y, continue.
Là, je suis perdue maintenant, je sais même plus, j'en étais.
Exprime la joie qu'il éprouve, fait cette expérience de sa liberté.
De sa liberté.
De ses possibilités.
De ses possibilités infinies. Mais il exprime également.
La troisième couillère.
Oh, vas-y, c'est
bon. Vas-y, continue.
J'ai du bruit de bouche là.
Non, pas rien. Ah. Là, tu seras mieux préparé comme ça. Là, tu fais un peu trop du par cœur. Faut qu'on comprenne.
Faut que tu comprends pas quand je parle, c'est pas français.
Je comprends, mais j'ai pas l'impression que toi tu comprends ce que tu dis.
Bah, si, je comprends.
Déjà, faut qu'elle connaisse bien et après, pourra mettre.
Faut que ce soit tes mots.
Bah, c'est mes mots.
Bref, vas-y, continue.
Vas-y, fais-tu.
Vas-y, je recommence.
Être libre et s'obéir qu'à soi.
Voilà un film d'Afsia Herzi, dont l'interprète féminine, vous avez son nom?
Nadia Melitti,
je suis perdue dans mes notes, a obtenu un prix d'interprétation à Cannes. Alors, déjà, Jérémy, est-ce que vous les entendez réviser, vos élèves, là? Est-ce que vous imaginez?
Oui, c'est en fait, c'est comme le roman, c'est très bien. Et il se trouve que l'actrice qui a remporté le prix d'interprétation n'est même pas une actrice professionnelle, elle n'a pas fait de formation classique, et donc le film a l'air très juste.
Il y a des scènes d'école, enfin de lycée dans le film. J'ai pas pu le voir entièrement parce que c'est pas encore possible. Voilà, est-ce que vous sentez être une nouvelle, alors pas seulement vous du coup à travers le film, mais porte-voix de jeunesse des quartiers populaires, banlieue,
je sais pas,
d'une certaine manière?
Je dirais pas ça parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de représenter un groupe, quoi. Non, je pense que je suis contente si je peux apporter ma pierre à l'édifice, mais je pense pas représenter, quoi.
En tout cas, c'est un très beau regard. Je conseille vraiment la lecture de Jouer le jeu, publié aux éditions de l'Olivier. Également, Le mythe du prof héros. On n'a pas du tout dit, Jérémy Fontagneux, mais très bien. De toute façon, vous avez été déjà invité sur France Culture. Vous serez sûrement invité dans de nombreuses émissions. C'est un thème très très important, je pense. Que vous dire aussi que il y a un livre très intéressant sur l'uniforme de Jean-Claude Kaufmann qui est sorti, Vêtements archaïques ou instruments de la modernité. Ça pose la question autrement. J'attendais un livre un peu profond sur la question. Une tribune aussi publiée dans Le Monde sur les rythmes scolaires au Japon. Ça a l'air un peu exotique comme ça, mais l'allègement des rythmes scolaires au Japon a abouti à une plus d'inégalités dans les loisirs qui coûtent très cher. Enfin, je voudrais terminer sur un autre mot. Une enseignante s'est suicidée le 1er septembre. Son nom, c'était Carole Grandjean. Elle a été
Caroline
Grandjean. Elle a été elle a été victime d'un corbeau, de lesbophobie. Elle était très seule et Caroline Grandjean était âgée de 42 ans. Donc, je lui dédie aussi cette émission. Je remercie Avril Ventura, Camille Mathy et Mineta Diawara qui étaient à la technique aujourd'hui.